Tout un monde,
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonjour à tous, aujourd'hui l'Ouest, le vrai dans toute sa dureté, autour de la nouvelle sortie demain du film Heaven's Gate, la porte du paradis de Michael Cimino, dans la version conforme au montage du réalisateur. Nous sommes en compagnie dans toute la première partie de l'émission de Michael Cimino lui-même, qui nous a accordé un long entretien, et puis après, mise en perspective historique de ce film qui a fait question justement pour les historiens, avec Jacques Porte et Yves Figueredo. Heaven's Gate, la porte du paradis, celle qui est censée s'ouvrir à deux battants devant le pionnier de l'Ouest. Cette terre promise de tous les damnés de la terre, l'Ouest comme réalisation ultime de la démocratie et de la destinée manifeste des États-Unis. Face à ces utopies fondatrices de la nation américaine, il n'est pas étonnant que le film de Michael Cimino, sorti en 1980 au terme d'un tournage épique qui avait explosé plus de 5 fois son budget initial, que ce film donc ait été attendu le doigt sur la gâchette par presque toute la critique américaine, qu'il a effectivement flingué collectivement. Heaven's Gate est un film martyr à un autre titre, puisque sa première version a été écourtée de manière drastique sur ordre de la production, avec in fine un destin paradoxal, puisque une autre partie de la critique, qui est elle très minoritaire, plutôt non américaine d'ailleurs, a vu dans ce film, aujourd'hui présenté en salle à Paris, dans sa vraie version, 3h36, celle de Cimino, une œuvre géniale. Une sorte d'anti-western marxisant, on dit certains, qui est peut-être le chef-d'œuvre paradoxal du genre western, justement. Michael Cimino est avec nous pendant la première moitié de cette émission, un privilège rare parce qu'il est un homme discret et que le destin chaotique de ce film, son film, l'a quasiment brisé. Avant qu'on l'écoute, l'argument du film, donc rapidement, très condensé, un personnage central, un garçon de bonne famille de la côte Est, un pur WASP, blanc, anglo-saxon, protestant. Son nom, James Avril, il est incarné par Chris Christopherson, sorti de Harvard, promis à une vie confortable au sein de l'élite. Il décide, James Avril, pourtant animé par son idéal, d'aller dans l'Ouest, dans le Wyoming, où il est marshal, une sorte de shérif, chargé donc de veiller à l'ordre public. Et face à lui, les grands propriétaires de bétail, l'association, qui sont des hommes de son milieu et qui s'estiment maîtres de ces vastes espaces où ils voient arriver d'un très mauvais œil les petits fermiers désargentés, de plus en plus nombreux, qui sont citoyens américains de fraîche date et qui parlent à peine l'anglais. À la suite de vols de bétail, la dite association donc des éleveurs dresse une liste de petits pionniers donc à abattre. Et elle recrute une milice de Texans pour faire le sale boulot, un massacre programmé que James Avril cherchera à tout prix à éviter, péripéties au cours desquelles il perdra la femme qu'il aime, Ella, une prostituée d'origine française, personnage qui est l'un des plus attachants du film, joué superbement par Isabelle Huppert. Une femme qui aime deux hommes, le très intègre James Avril et aussi Nate, un ex-tueur à gages pour l'association qui finalement change de camp et qui est, ce Nate, l'un des plus beaux rôles du mythique Christopher Walken.
James, remember the good gone days.
Come here.
pretend to be farmers. This is no longer a poor man's country. We have placed 125 names on a death list.
How can people declare war in a whole county?
I guess on principle, everything can be done.
That was all a nice game, Ella. And it's over.
Everything I have in the world is here. I can't just walk out and leave it.
Michael Cimino, merci d'être avec nous. Merci de revenir avec ce très très beau film qui a eu une histoire compliquée et qui pour moi est un des plus beaux films qui a été tourné au XXe siècle.
Thank you.
Et je ne sais pas alors comment vous ressentez maintenant votre relation avec ce film qui a été si problématique. Mais je voulais vous dire que pour beaucoup de spectateurs, ça a été un choc définitif, même dans la version écourtée d'il y a 30 ans.
Now I love it.
Aujourd'hui, je peux dire que j'aime ce film, je l'adore.
And I'm happy that people will see.
Et je suis ravi que l'on puisse voir cette version définitive du film.
Because this is, I did not want to make this version.
Cette version-là, je ne voulais pas la faire en réalité.
And when I was approached by the producer Joanne Carelli,
et lorsque Joanne Carelli est venue me voir,
to participate in creating the
pour
digital version
que je participe à la création d'une version numérique,
I said no.
Du film, j'ai dit non.
Absolutely no.
Il n'en est pas question.
I don't want to relive.
Je ne veux pas revivre l'expérience de ce film. On me pose des questions sur ce film depuis 30 ans. J'en ai assez et ça suffit.
But Joanne is a very strong woman.
Mais Joanne, c'est une forte femme. Elle est particulièrement convaincante, astucieuse.
And I did not know that she
et je ne savais pas qu'elle est le responsable de Criterion à New York, donc les gens qui lancent ces nouveaux DVD. Je ne savais pas qu'ils travaillaient ensemble depuis 10 ans. Pendant ces 10 ans, ils ont obtenu les droits de la MGM pour pouvoir sortir le film dans sa version nouvelle.
There were so many problems because MGM.
Et en réalité, il y a eu beaucoup de problèmes.
Over the last 20
parce
years,
que MGM a fait l'objet
times.
De fusions et d'acquisitions très nombreuses au cours des 20 dernières années.
The only thing that remains of MGM is the famous.
Tout ce qu'il reste
lion.
De MGM, c'est le très célèbre lion, le logo.
Only the logo.
Il ne reste que ça de la MGM.
So. All of the elements of the film, sound and picture alike.
Donc tous les éléments du film,
were scattered all over the United States.
Que ce soit les images ou la bande son, tous ces éléments étaient éparpillés sur le territoire américain.
There were pieces of material.
C'était très étonnant. On a retrouvé
like
des choses à Baltimore, dans l'État du Maryland.
Inexplicable.
Pourquoi? Inexplicable.
They were all over the country.
Donc partout aux États-Unis, il y avait des petits bouts de ce film.
Finally, they assembled. They found every piece.
Ils ont réussi à rassembler tous ces éléments.
And Joanne again, she persisted and persisted.
Et Joanne, femme particulièrement persistante,
and she is the only producer on the movie.
A réussi à tout mettre en place. Elle est la seule productrice du film.
Finally, she wore me down.
Et finalement, elle m'a eu à l'usure. Voilà, c'est comme
as
ça que
I'm
ça s'est
sure
fait.
You would.
Et je suis sûr que vous, Marie-Hélène Fraissé, vous m'aurez à l'usure aussi dans cet entretien.
Because you're very strong.
Parce que vous aussi, vous avez l'air d'être une forte
She's
femme.
Strong. And so finally, I said just in order to not hear her anymore.
Donc,
I said yes.
Donc j'ai cédé. J'ai fini par céder.
So I said, where do I go? She said, well,
et elle m'a dit, Eh bien, on va enregistrer la bande-son chez Sony Pictures à Los Angeles, qui était auparavant les studios MGM, là où j'ai tourné le film à l'origine. On allait à New York, on faisait l'enregistrement du son à New York. Au bout du compte, il a fallu beaucoup travailler pour arriver à cette nouvelle version que l'on voit aujourd'hui. Il a fallu plus de 5 mois de travail pour y parvenir. Donc, vous voyez, on en est à 5 ans pour arriver à ce projet à peu près, en plus de l'écriture. Donc, ça, il a fallu du temps.
Michael Cimino, quand ce film est apparu, il y a de ça 30 ans, il a été un choc pour beaucoup de gens parce que tout d'un coup, on ne s'amusait plus avec l'histoire de l'Ouest, on ne la critiquait pas avec des aspects bouffons. Tout d'un coup, on la voyait dans sa très grande cruauté, dans sa très grande violence. Et ce qui était le plus frappant, c'est que ça se déroulait à un épisode où, en principe, les guerres indiennes étaient finies. C'est-à-dire qu'on assiste dans ce film à une violence qui est post-Indian Wars. Et en regardant les dates, je me suis rendu compte que votre film évoquait un épisode qui s'est déroulé 1 an après Wounded Knee.
It's very interesting all the way around. You know, it's the opening of the movie is at Harvard.
Tout cela, c'est très intéressant. Le film débute à Harvard 1870, en 1870.
Very close to the end of the Civil War.
Juste après la guerre de sécession.
And the speech that Joseph Cotton makes.
Et le discours prononcé par Joseph Cotton devant tous les jeunes diplômés de Harvard est un discours visant à dire, vous, jeune homme privilégié, jeune homme riche, ne gaspillez pas l'éducation qui vous a été dispensée. Allez, partez, travaillez et faire le bien sur le territoire américain.
Utilisez
ce privilège, usez de votre éducation, utilisez votre richesse pour améliorer le sort de ce pays.
It was very, very admirable speech.
Donc un discours particulièrement admirable.
So, the character of James Avril,
le personnage de James Avril
who does. He takes
fait serious. Justement cela. Il prend le discours qu'il écoute à la lettre. Il décide de partir pour l'Ouest et essayer de faire le bien.
And of course,
livrer
he fails.
La bataille qu'il faut. Et évidemment, il échoue.
Alors en face de lui, il va trouver donc l'association. L'association, ce sont d'autres WASP,
yes.
Mais eux sont arrivés donc avant et ont pris l'habitude de considérer que le
yes.
territoire leur appartenait.
Yes.
Donc il se trouve devant des gens de la même origine que lui
class.
Et avec lesquels il est en radicale opposition.
It's exactly true what you say. There are people of his own class.
Ce que vous dites est exact. Il est confronté à des gens qui viennent des mêmes origines que lui. Du reste, je pense que le grand-père de Winston Churchill, du côté de sa mère, faisait partie de cette association. Il faut que je vérifie, hein, j'en suis pas certain, mais je crois bien. Autrement dit, il s'agissait d'une classe aisée, aisée à bien des égards.
Et
on a tendance à oublier que la classe aisée aux États-Unis était anglaise avant tout.
And in addition to which, Americans
de plus,
will not admit,
les Américains
even under torture,
refusent même sous la torture
that there's a class
d'admettre qu'il y a un système de classe aux États-Unis. Aujourd'hui, la société américaine est régie par un système de classe qu'il y a toujours eu.
Why they only refer to this middle class is a mystery to me.
On parle sans cesse de la classe moyenne, on ne parle que de la classe moyenne. Moi, je trouve ça particulièrement étrange. Je ne comprends pas.
The country was founded by the upper class.
Le pays a été fondé par cette classe supérieure.
It was fought by the lower classes.
Ce sont les classes populaires qui ont engagé les grandes batailles de l'histoire, mais tout cela s'était mené par les classes supérieures. Les premiers responsables politiques, les premiers présidents américains étaient d'extraction anglaise de la classe supérieure de l'Angleterre.
So we pretend, for some reason, I don't understand.
Pour des raisons que je ne m'explique pas,
that all Americans are created equal.
On pense que tous les Américains sont créés égaux. Et on fait semblant que c'est le cas. Mais ce n'est pas du tout le cas et ce ne sera jamais le cas.
Until the lawyers destroy the country.
Il faut attendre que les avocats américains aient mis le pays complètement à mal, à genoux.
America will not be destroyed by nuclear weapons or war.
Les États-Unis ne seront pas détruits par la guerre ou par les armes nucléaires. Les États-Unis seront détruits par les avocats, le système juridique géré par les avocats aux États-Unis. La plupart des responsables politiques au Parlement, au Congrès américain, sont des avocats de formation. Notre président actuel est avocat de formation. Ils sont tous avocats.
Ce
n'est pas nécessaire d'être un génie pour avoir son certificat d'avocat. Il suffit d'avoir une bonne mémoire.
Mais
le fait d'être avocat, ce n'est pas synonyme d'avoir de l'intelligence ou même du bon sens.
Ce que vous décrivez là, c'est la déchéance morale des États-Unis, puisque au départ, on a la Nouvelle-Jérusalem, et la Nouvelle-Jérusalem implique d'avoir un code moral très strict. Or, ce que vous décrivez dans votre film et ce que vous nous dites là tout de suite, c'est qu'au fond, cet alibi moral a été instrumentalisé au service de la brutalité des dominants.
Yes, exactly. I agree.
Oui, c'est bien dit. Je suis d'accord avec vous.
C'est ce qui donne à votre film, aujourd'hui encore, une extraordinaire actualité.
Oddly enough, isn't it? Isn't
oui,
it strange?
C'est étrange, hein? On tourne un film il y a 32 ans et aujourd'hui il est d'actualité, c'est incroyable.
Ah, c'est un miracle.
C'est un miracle.
Écoutez France Culture, tout un monde. Nous sommes en compagnie du réalisateur Michael Cimino, venu parler de son film Heaven's Gate, La Porte du Paradis. Michael Cimino est traduit par Xavier Combes. Est-ce que votre regard a changé sur ce film ? À l'époque, on a considéré que c'était un film militant, que c'était un film de gauche. On a même dit que c'était un film marxiste. Est-ce que l'opinion américaine a changé ? Est-ce que votre propre regard a changé sur ce film ?
Ah, another interesting question.
Autre question intéressante.
I can't say no, yes,
encore une fois, je ne peux pas dire oui, non, ou peut-être. C'est dommage, hein. Je suis obligé de vous faire des phrases pour répondre.
Number one. I am not a political person.
Tout d'abord, je ne suis pas quelqu'un qui a des pensées politiques et qui les exprime. Je ne tourne pas des films pour exprimer un propos politique.
I don't make movies to make a political point.
Je ne veux pas argumenter dans la sphère politique.
I don't make movies about ideas.
Je ne fais pas de films sur des idéologies, quelles qu'elles soient.
I make movies about people.
Je fais des films sur les gens.
What interests me. It's not the politics.
Ce n'est pas la politique qui m'intéresse.
But the people.
Ce qui m'intéresse, ce sont les gens.
People in times of crisis.
Les gens en des temps de crise.
How will they act?
Comment est-ce que les gens vont réagir?
How will they respond?
Que faire pendant une crise? Comment les gens réagissent-ils à la violence? Comment réagit-on à des menaces d'aliénation? Comment réagit-on face à la mort de proches, de parents, d'amis?
I mean, one only has to look at the footage that comes in every day from Syria.
Il suffit de regarder les images quotidiennes de Syrie.
To see the incredible grief.
Comprendre le deuil incroyable.
Over children.
Que vivent les gens burning. Qui ont souffert des enfants qu'on a brûlés.
In the streets.
Brûlés dans les rues.
After Syria, you could make the Deer Hunter about Syria.
On pourrait faire un voyage au bout de l'enfer en Syrie.
The specific war is not the question. The Johnson County war is not the specific question.
Ce n'est pas cette guerre-là dont il s'agit. Il ne s'agit même pas de la guerre de Johnson County.
It's war.
Il s'agit de guerre, itself, tout bêtement.
Which is the issue. It's violence.
Le problème,
itself.
C'est la guerre elle-même, cette violence.
Although I must admit that what first caught my eye.
Bien que je dois admettre que ce qui m'a interpellé dans mon esprit et dans mon cœur quant à cette situation décrite dans le film, c'est ceci. Je savais qu'il y avait de la violence des Blancs envers les Noirs. Je connaissais la violence que les Blancs ont infligé aux Amérindiens. Je connaissais les conditions inhumaines qu'imposaient les Blancs aux Chinois, qui ont pourtant mis en place le système ferroviaire américain. Et puis ce système ferroviaire existe encore grâce aux Chinois. Et ces Chinois y travaillaient, on leur donnait un bol de riz par jour et puis de l'opium.
It was the same in World War II.
Même chose pour la Seconde Guerre mondiale.
Chinese building the Burma Road.
Les Chinois qui ont
one bowl of rice a day
construit la route de Birmanie, de l'opium et un bol de riz par jour et allez-y, travaillez.
So this is the first case.
Moi j'aime beaucoup l'histoire. J'adore l'histoire et la géo, mes sujets préférés à l'école.
And although I wasn't a historian, I wasn't a geographer.
Je ne suis pas devenu historien ni géographe. J'ai ensuite étudié l'art et l'architecture. Je n'ai pas étudié le cinéma ni l'écriture. Rien, aucune formation. Je suis novice dans toutes ces matières-là.
This was the first instance I came across
a white on white violence. C'est la première fois que je voyais une violence infligée par des blancs à des blancs.
This to me, and then. When I discovered it was violence,
par la suite, j'ai découvert que cette violence était sanctionnée. Elle émanait du président des États-Unis, Benjamin Harrison,
and the governor of
et
the state.
Le gouverneur de l'État.
Principally the president.
Mais c'est essentiellement le président.
Can you imagine anything like this today?
Imaginez une situation comme celle-là aujourd'hui.
Giving permission
le président qui autorise
industrialists to shoot coal miners.
Un groupe d'industriels d'aller tirer sur des mineurs qui travaillent dans une mine de charbon.
It struck me very, very forcefully.
Ça m'a frappé, c'était très fort pour moi.
So, the more I read, the more I became.
J'ai beaucoup lu. Je me suis documenté.
Inextricably entwined.
Et je me suis senti mêlé de manière inextricable. À cette situation, mais encore une fois, pas d'un point de vue politique, d'un point de vue purement humain. Comment est-ce qu'un tel événement peut avoir lieu? C'est ainsi que j'ai décidé de tourner ce film.
Donc de votre point de vue, c'est une tâche sur l'histoire américaine, mais ce n'est pas la seule, c'est une sorte de tâche exemplaire.
Yes, very dark, deep stain.
Oui. Une tache, une souillure particulièrement sombre qui ne pourrait jamais être effacée, un petit peu comme la souillure rouge que l'on connaît à l'endroit du peuple amérindien. Les États-Unis ne deviendront jamais les États-Unis d'Amérique avant que l'on reconnaisse le génocide perpétré envers les Amérindiens.
Dans ce film, Michael Cimino, d'après ce que j'en ai lu à partir de l'histoire réelle de la Johnson County War, il y a une différence par rapport à l'histoire réelle, c'est-à-dire que le massacre que l'on voit à la fin du film n'a pas vraiment eu lieu.
Yes, of course. No, the battle actually took place.
La bataille a eu lieu.
There are pictures.
Du reste, il y a des images de ces machines de guerre inspirées de machines de guerre de l'Empire de Rome. Ce sont des copies de ce qu'utilisaient les Romains. À un moment, juste avant le début de la bataille, le chef prévient tout le monde qu'il faut être prêt. Et le responsable militaire, qui est du côté des mercenaires, dit à les putains de Romains. Il dit ça, goddamn Romans. Parce que lui, c'est quelqu'un d'éduqué, il vient de la classe supérieure et il connaît évidemment la Rome antique. Donc, il y avait une récompense qui était donnée, je ne me souviens plus de combien était cette récompense, $15, $20 peut-être, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un de tué. Et les livres d'histoire auxquels vous faites allusion ont été écrits à une époque où l'Ouest américain était en fait représenté comme une image d'Épinal. C'était un cliché dans l'opinion publique. Moi, aujourd'hui, je suis à une époque différente de cela. Donc, j'ai un point de vue différent sur la chose. Aujourd'hui, nous voyons les choses avec un peu plus de lucidité. Moi, je l'espère.
In the real history, character played by Isabelle Huppert,
dans l'histoire, Avril est pendue, le personnage que joue Isabelle Huppert est pendu.
But then you have no story.
Mais bon, à ce moment-là, le récit cinématographique ne peut pas avoir lieu, malheureusement. Donc on fait ce que l'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on utilise, on use de l'histoire avec un grand H. Je ne suis pas écrivain d'un roman historique où tout doit être exact. Exact. Je ne fais pas un film en costume qui se veut d'être le reflet fidèle de la réalité. Non, mais les faits n'en demeurent pas pour autant réels. Ils sont tout à fait authentiques. Les faits historiques sont exacts dans ce que je raconte. C'est ça. Qui est le plus important, à mon avis. Les personnages, bien sûr, sont des personnages de fiction. Mais quand on est artiste, créateur, comme je le suis, on a le droit d'avoir cette licence.
Est-ce que, depuis 30 ans, la réception du film a évolué aux États-Unis ?
Je pense que deux choses. Une est, à cause de la presse réaction...
Il faut voir qu'il y a eu la réaction de la presse, des critiques, il y a 30 ans. En raison du point de vue donné par la presse, eh bien, l'opinion publique a suivi. La presse leur avait dit qu'il fallait ne pas aimer ce film. Et c'est comme aujourd'hui, par exemple, dans la campagne présidentielle entre Obama et Romney, on était amené à ne pas aimer Romney. Parce que la presse a influencé l'opinion publique. Les médias américains ont beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir partout dans le monde. Les médias ont un pouvoir très fort. Parfois, c'est un pouvoir destructeur. Et cela s'applique à un athlète, un responsable politique,
Anyone.
N'importe qui.
But what I believe is that it's a generational difference.
Mais il y a aussi une différence générationnelle. Aujourd'hui, c'est une génération nouvelle.
Brand new generation who think differently.
Et la génération actuelle pense différemment. La génération actuelle a une plus grande liberté. Et la génération actuelle n'est pas aussi encline à se faire dicter son opinion par la presse, par les médias. Je crois que la génération actuelle a plus de force. Les individus savent tirer profit du pouvoir de leur propre esprit.
Ça veut dire que votre film actuellement est mieux reçu, beaucoup mieux reçu qu'il y a 30 ans, dans votre propre pays.
Yes. Well, I think it will. I don't know in my country yet, but I know that.
C'est trop tôt pour dire, s'agissant des États-Unis, mais.
Which, where the city, the rejection began, New York City.
À New York, où le phénomène de rejet envers le film.
When we screened this.
Et commencer à New York, donc, où nous avons fait la nouvelle version du film, nous avons reçu une standing ovation. Les gens aimaient beaucoup notre travail. Chris Christopherson était avec moi. Et j'ai dit, t'entends, les gens, ils applaudissent pour la première fois en 32 ans. Qu'est-ce que t'en penses?
And he was laughing. He had a wonderful time.
Il a rigolé.
From Hawaii to come
il est venu
to
de Hawaï avec sa famille
and,
pour être à New York.
I was so happy to have
et
him
j'étais tellement content qu'il soit là avec moi.
And I was just so, I've been so happy for the cast.
Et puis je suis vraiment très content pour les comédiennes et les comédiens
schedule.
Parce que c'était quand même un
the shooting was over four seasons,
tournage
spring,
très long.
Winter and fall.
C'est un tournage qui a couvert les quatre saisons,
and
printemps, été, automne, hiver.
Et an even level of,
on a réussi à maintenir une très grande stabilité de l'intensité du film. Et tous ces comédiens ont su garder cette tension de leur jeu. C'est un peu miraculeux d'ailleurs parce que d'une certaine façon,
the people who were in the movie really dedicated themselves.
Les gens qui ont contribué au film se sont vraiment consacrés à la réalisation du film. Moi, je n'aurais rien pu faire tout seul.
They, even down to the people who were playing the immigrants.
Même les seconds rôles, les figurants qui jouaient les rôles d'immigrés.
Everybody.
Tout le monde.
From the smallest to the biggest.
Du plus petit rôle jusqu'au premier rôle, tout le monde s'était engagé. Il y en a qui ont même quitté leur boulot dans le Montana pour continuer à travailler sur le film.
It was amazing.
It's très étonnant.
And I think now that over at least 20 years of people being subjected to CGI, you know, computer-generated effects.
Depuis 20 ans, les films nous bombardent d'images informatisées. Par exemple, prenons des images sur le siège de Troie.
They had more boats on the screen.
Il y avait plus de navires à l'écran
because of CGI,
grâce à ces informations générées par informatique
even had in their whole
qu'il n'y a eu de bateaux dans la flotte grecque à l'époque.
Nobody did any historical research.
Personne n'a fait de recherche historique pour regarder la véracité de tout cela.
Maybe they had
les Grecs
a few hundred ships.
Avec quoi? Quelques centaines de navires?
In the movie, it looks like
dans le film, ils ont des milliers. C'est une flotte de milliers de navires. Grâce
and
à l'informatique.
It's used so
et
extensively,
on en abuse de cette technologie.
To show you big crowds,
on vous montre des foules immenses, on vous montre tout en quantité énorme. Et par conséquent, je crois que les gens sont devenus
tired
un petit peu las
of this fakery.
De toute cette tromperie.
I think they're aware of
de tous
it
ces
now.
Artifices. On en prend conscience aujourd'hui. On en parle, la presse relate les excès de cette technologie. Il y a eu une croissance exponentielle de l'usage qui est fait des innovations technologiques. On amplifie les choses, on exagère. Et par conséquent, on est complètement abasourdi par tout cela.
Actuellement, un désir de complexité, justement. Cette complexité qui est à l'œuvre dans vos personnages. Et je pense au personnage qui est joué par Christopher Walken. Et je pense aussi à ce film qui, en ce moment, a un très grand succès en France, qui est Lincoln, qui montre, au fond, un personnage qui, pour poursuivre ses objectifs politiques, s'est trouvé à faire des choses absolument inadmissibles. Je ne sais pas si vous aimez ce film, Lincoln, mais cette complexité, vous pensez, si j'ai bien compris ce que vous dites, que maintenant le public est prêt à la regarder et même c'est ce qu'il attend peut-être du cinéma.
I haven't seen Lincoln, so I don't know, but...
Je n'ai pas vu le Lincoln de Spielberg, donc je ne sais pas.
Instead of the word complexity,
mais à la place du mot complexité, j'utiliserai le mot diversité.
People don't have to be black or white.
Ce n'est pas nécessaire d'être blanc ou noir.
There could be many shades of gray.
Il y a beaucoup de choses entre le blanc et le noir.
For example, in Year of the Dragon,
par exemple, en l'année du dragon,
I made the villain.
J'ai fait en sorte que
have more good
le méchant est plus
handsomer and better dressed
de qualité.
Than the hero.
Je l'ai fait être plus élégant que le héros.
The hero was in many
le
ways
héros
despicable.
Était assez méprisable à bien des égards.
A racist.
C'était un raciste.
I think people are more prepared today.
Aujourd'hui,
for
je crois que
that kind of
les gens ont ce désir-là. Vous voyez, on recherche davantage les contradictions au sein même des personnages. Par exemple, aux États-Unis, à l'époque où le film a été tourné, on ne voyait jamais une femme amoureuse de deux hommes en même temps au cinéma. C'était l'époque de Jules et Jim ici. Donc là, on est dans les années 60.
But in America,
mais
this
aux États-Unis,
impossible.
This was dynamite, you know. In fact, Isabel says to Christopherson, "You
et
think
Isabel
a woman can't love two men?"
Dit à Chris Christopherson, "Tu crois qu'une femme peut pas aimer deux hommes?"
And Chris answers.
Et Chris répond.
He said, "Sure."
Mais si.
Or two, or three, or
pourquoi
four,
deux?
Even.
Pourquoi pas trois ou quatre même?
But it sure as hell is inconvenient.
Mais en tout cas, c'est pas très pratique.
And he's an especially intelligent man.
Et là, c'est un homme particulièrement intelligent qui répond ça.
But deep down, he doesn't like the idea.
Mais évidemment, l'idée lui déplaît profondément.
Michael Cimino, venu présenter à tout un monde sur France Culture la nouvelle sortie remasterisée, magnifique, de La Porte du Paradis, Heaven's Gate, qui sort donc demain. Michael Cimino était traduit par Xavier Combes. Il est venu d'ailleurs à cette interview, faut quand même que je vous le décrive, il est venu avec un Stetson absolument magnifique. Et voyant la qualité, il m'a expliqué Le détail de la fabrication de ce Stetson, qui a été fait par un chapelier très spécial au Texas, et c'est un vrai Stetson de castor. Donc c'était la première fois de ma vie que je voyais ce feutre de castor, qui a un peu changé le cours de l'économie mondiale d'ailleurs, parce que c'est au nom de ce castor qu'on a tué, ce feutre de castor qu'on a tué tous les castors, notamment du Canada. Alors, à partir de ce film, donc La Porte du Paradis, eh bien nous allons essayer de situer cette histoire, puisque notre thème aujourd'hui c'est l'Ouest le vrai, nous allons essayer de cadrer ce film à l'intérieur à la fois de l'histoire des États-Unis, des représentations et puis de la manière dont le film, le genre western représente l'histoire des États-Unis. Je suis en compagnie de deux historiens. Jacques Porte, bonjour.
Bonjour Ariane.
Historien, américaniste, vous avez publié pas mal de livres sur l'Ouest d'ailleurs, Buffalo Bill notamment, une biographie sur l'histoire. Alors, en dehors de l'Ouest, l'histoire globale des États-Unis. Et puis, plus anciennement, cinéma et histoire aux États-Unis. Donc, c'est une manière de montrer le passé à travers l'industrie
Tout
du cinéma qui vous intéressait. Et puis, nous sommes également avec Yves Figueredo. Bonjour.
Bonjour.
Alors, autre génération, vous êtes un chercheur beaucoup plus jeune. Vous êtes maître de conférence à Paris 4. Quand le film est sorti, vous aviez 7 ans, m'avez-vous
voilà.
dit. Donc,
oui.
pour vous, vous n'allez pas le revoir, mais vous allez le voir. Enfin, vous l'avez vu.
Voilà, exactement. Hein,
ouais. Et vous êtes un spécialiste de l'Ouest américain, notamment à travers les images de la wilderness, donc de la grande sauvagerie.
C'est ça,
de
davantage l'histoire environnementale de l'Ouest, en fait.
Alors, peut-être avec vous deux, on va situer cette histoire, cet épisode, peut-être, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de la manière dont Cimino a représenté ce moment de 1892 où il y a eu un début. Seulement un début, contrairement au film, de massacre. Alors, Jacques Porte, la réalité des choses de ce Johnson County
c'était
dans le Wyoming.
Oui, dans le Wyoming, qui est encore un État très peu peuplé, qu'il a toujours été. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est les immigrants n'y couraient pas comme des fous. Ça n'a jamais été très peuplé. Et ce qui est arrivé, simplement, c'est que le Wyoming était massivement républicain, conservateur, parce que à l'époque, les républicains n'avaient pas encore pris tout à fait sa dérive la plus conservatrice, mais eux, ils l'étaient, et qui se sont opposés, donc, à des colons, qui étaient populistes et qui étaient démocrates en plus, et qui avaient bénéficié du homestead et voulaient s'installer sur ces terres. Et donc, ils ont choisi ces gens qui sont appelés des régulateurs, les propriétaires terriens, les grands propriétaires terriens, ont dit « Bon, voilà, on va régler le problème ». Et ils ont fait appel donc à des tueurs du Texas qu'ils ont associés dans l'organisation des régulateurs et qui avaient une liste de 71 personnes à tuer.
Oui, c'est ça. Alors finalement, au fond, pour faire une histoire courte, c'était le projet. Le projet était bien de tuer. Il y avait une liste de petits fermiers à tuer. Mais la différence avec le film, c'est que le massacre n'a pas vraiment
non,
eu lieu.
Non, parce que les shérifs étaient au courant de cela. Il y avait déjà 2 morts sur l'arrivée de ces tueurs. Et donc, la population s'est soulevée. La population de la petite ville s'est soulevée, carrément, et s'est opposée, bien sûr, à ça. Et les tueurs ont été arrêtés.
Alors là où il y a impunité...
Mais ils ont été, bien sûr, relâchés, d'ailleurs, très vite, parce qu'il y a eu un accord.
Alors c'est ça le problème, et la tâche dans l'histoire américaine, c'est au niveau de l'impunité. C'est-à-dire qu'on a pu prouver qu'il y avait projet de meurtre, on a retrouvé la liste.
Et c'est la cavalerie américaine qui a sauvé ces régulateurs qui auraient été sans doute lynchés, sans doute, par la foule.
Et le président des États-Unis qui a, paraît-il, enfin, selon certaines théories, demandé qu'on enterre l'affaire. Quoi.
Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a envoyé l'armée au niveau local déjà et tout, c'était l'accord avec Washington, il n'y a aucun doute. Et puis il y avait une parenté politique incontestable. Il était du même bord, le gouverneur du Wyoming et puis le président. Donc c'est comme ça. Mais finalement, il n'y a pas eu de massacre. Et après, là, simplement, les ranchers ont conservé le contrôle de leur terre. Bien sûr, personne ne l'a enlevé. Et ils ont continué à utiliser, de façon beaucoup plus discrète, des tueurs locaux pour se débarrasser de certains leaders des colons. Mais enfin, ça s'est pas déchaîné en une violence énorme comme ça avait été prévu. Et c'est quand même, bien sûr... En même temps, ça dit en même temps quand même qu'une telle organisation de violence volontaire a quand même à l'époque, qui n'était pas une époque tendre, a quand même soulevé l'indignation, même de la population qui a réagi. Ce n'était pas une chose qui était admissible comme ça facilement. Et pourtant, Dieu sait s'il y avait eu des massacres variés et s'il y avait eu de la violence. Mais là, on trouvait que c'était un peu fort de coton.
Alors peut-être allons-nous revenir à partir de cet épisode avec vous deux, Yves Figueredo, Jacques Porte, sur quelque chose qu'on a vu dans beaucoup d'autres westerns, c'est-à-dire des grands propriétaires qui se croient chez eux, qui ont pris possession du pays, et puis des petits immigrants qui arrivent de manière légale le plus souvent, et puis qui sont persécutés, intimidés. Et ma question, ça serait, on a l'impression que la loi, pendant très longtemps, n'a pas été très clair dans l'Ouest, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de flottement. Alors Yves Figueredo, vous qui connaissez très bien ces grands espaces de l'Ouest, que vous avez beaucoup arpenté, comment se fait-il qu'il y ait eu ce flottement juridique pendant aussi longtemps sur l'Ouest ?
Je pense que dans une grande mesure, c'est la difficulté des États-Unis, au sens vraiment institutionnel du terme, à mettre en équation l'idéologie qui est plaquée sur l'Ouest et la réalité, y compris justement, parce que c'est à ça que je m'intéresse beaucoup, la réalité environnementale de l'Ouest. C'est-à-dire que là, il faut revenir un petit peu à la figure du fermier, qui est qui est une réalité humaine, mais c'est aussi un idéal culturel et politique à l'origine aux États-Unis, notamment au moment révolutionnaire, au moment de la révolution, des pères fondateurs, notamment Thomas Jefferson, pense que le fermier doit être vraiment le citoyen américain modèle, le petit fermier indépendant, etc. Le Homestead Act, dont parlait Jacques Porte en 1862, consacre cette figure du fermier, et on pense que les fermiers vont pouvoir s'installer dans l'Ouest pour différentes raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais notamment des raisons environnementales et climatiques. À l'ouest du centième méridien, c'est trop aride, c'est pas possible, ça marche pas, on peut pas vraiment faire de ferme, et notamment dans le Wyoming, on n'y arrive pas. Et donc ces fermiers, ils se retrouvent dans un environnement qui politiquement, socialement, économiquement leur est très défavorable. Et c'est là tout le flottement justement, c'est qu'on a des terres publiques énormes et très très peu d'outils législatifs, économiques utiles pour les utiliser.
Donc ils vont essayer de s'en sortir par tous les moyens.
Ils essayent de s'en sortir par tous les moyens.
Ils ne sont pas des délinquants professionnels.
Absolument non. Le problème c'est qu'ils se retrouvent avec des homesteads, donc des lots de terres sur lesquels ils sont censés fonder des fermes. Et ce n'est pas possible. Ces fermes, elles ne sont pas rentables, elles ne sont pas viables si on s'en tient à ça. Donc la plupart, qu'est-ce qu'ils font ? C'est logique. Ils développent des petites activités parallèles, notamment de l'élevage. Et c'est eux qui sont les petits éleveurs qui rentrent en conflit avec les grands éleveurs. Et ce qui est intéressant à ce niveau-là, et c'est ce qui est très très bien montré dans le film, c'est que ce n'est pas donc véritablement un conflit entre fermiers et éleveurs de part et d'autre, comme on l'a souvent présenté. C'est en fait des petits éleveurs par rapport à des grands éleveurs. Et donc, derrière ça, ce qui compte, c'est tout simplement, ce qui les oppose, c'est l'argent, le capital, et d'où ça vient.
Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? Have you seen that
L'Ouest, le vrai, vous écoutez tout un monde sur France Culture, Jacques Porte, Yves Figueredo. Est-ce que vous reconnaissez cette voix historique là? Woody Guthrie.
Oui,
voilà l'Amérique des petites gens, Woody Guthrie. Hein, oui, Jacques Porte.
Bien sûr. Non, mais voilà, j'ai rajouté simplement aussi qu'il faut rajouter à ce que disait Figueredo, qui est bien sûr très juste, c'est qu'aussi que les États-Unis n'ont pas de police fédérale, avant l'FBI qui est des années 20. Et les autorités
locales. Ils n'ont même pas de police d'État, ils ont juste des polices locales.
Ils ont des polices locales, ils ont des shérifs qui sont élus, qui ont quelques volontaires qui recrutent, etc. Donc ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de moyens. C'est pour ça que dans le Johnson County, c'est l'armée qui intervient. Finalement, c'est un régiment de cavalerie qui rétablit l'ordre, si on veut, parce qu'elle était proche, parce qu'il y avait la Fort Laramie, elles étaient proches. Mais sinon, ils n'ont pas de ça. Donc ce qui fait que toutes ces violences-là, qui sont multiples, qui se déchaînent dans ces coins-là, personne ne peut les réprimer. Pratiquement. C'est vraiment le plus fort qui l'emporte, et puis c'est tout.
Alors justement, ce qui a gêné dans ce film, c'est que c'est un film sur l'amertume, finalement, du petit émigrant qui est parti plein d'espoir sur cette terre de promesses, et puis qui est déçu. Et quand on lit les correspondances, par exemple, de ces petits fermiers qui écrivaient parfois à la mère patrie, on s'aperçoit que l'amertume, c'est presque universel dans l'histoire de l'Ouest, bien avant les raisin de la colère. Mais ils ont tous, presque tous, été déçus.
Ben, au début, forcément, je veux dire, c'était extrêmement dur. Extrêmement dur. On leur donnait l'Homestead leur donnait donc à peu près 250 hectares en gros, dont ils venaient propriétaires au bout de 5 ans s'ils avaient développé. Ils arrivaient, il n'y avait pas d'arbres, la plupart dans beaucoup d'endroits, il n'y avait pas de pierres, donc ils logeaient dans des trous de terre quasiment, et puis pour faire quoi ? Avec le climat, etc. Pourquoi cultiver du blé et tout, très difficile, etc. Donc ça prenait beaucoup de temps. Il a fallu des fois 2-3 ans avant qu'ils réussissent à bâtir une petite baraque, toute petite.
Et pourquoi dans l'historiographie américaine, on minimise cet aspect d'amertume ? C'est ça que j'ai du mal à comprendre.
Je pense que l'amertume est difficilement conciliable avec la mythologisation de l'Ouest, et c'est un petit peu ça le problème. Mais effectivement, comme disait Jacques Porte, le problème dans l'Ouest, essentiellement, c'est de mettre en place les infrastructures qui vont permettre justement le développement des activités économiques qu'on souhaite poursuivre, et notamment puisque l'environnement est très aride, c'est le problème de l'irrigation. L'irrigation, c'est un problème extrêmement complexe, c'est très simple sur le principe, mais ça demande des infrastructures souvent très complexes et très onéreuses. Et évidemment, la question, c'est qui va payer, tout simplement. C'est-à-dire que si c'est les autorités publiques, évidemment, là, ça peut appartenir à tout le monde, mais à l'origine, c'est pas ça. Ça le sera par la suite. Mais à l'origine, c'est pas ça. C'est-à-dire que un des grands aménageurs de l'Ouest, un des grands penseurs de l'Ouest, s'appelle John Wesley Powell, avait perçu le problème en disant « celui qui possède l'eau possède la terre ». Et c'est tout à fait juste dans l'Ouest à ce moment-là.
Donc on va compter quoi ? Une ou deux générations sacrifiées ?
Ça commence à vraiment se stabiliser, oui, un peu à partir de... Il y a des aménagements nouveaux, des nouvelles procédures justement à partir des années 1905 qui commencent précisément à permettre... On comprend à ce moment-là, à partir d'une observation de l'environnement de l'Ouest, on commence à comprendre que l'appareil législatif qui avait été conçu dans les années 1860 n'est pas adapté.
Mais en plus, il y a le fait aussi, bien sûr, que pour ajouter à l'inégalité bien sûr, de tout cela, c'est que bien sûr, ces colons qui n'arrivaient pas, ils revendaient leurs terres. Et qui pouvait les acheter ? C'était les plus gros qu'eux, la plupart du temps. Bien donc, sûr. Ils agrandissaient leur propriété pour faire de l'élevage extensif en général. Et c'est ce qui est arrivé aussi. Donc, ça a cassé un peu la démocratisation de la terre, qui était le grand projet américain, n'a jamais pu avoir véritablement lieu. Parce que d'un côté, on met des gens sans moyens sur une terre désolée ou presque. Et puis, de l'autre, on les oblige à vendre, finalement, parce qu'on a 5 ans à durer là, comme ça. Il fallait avoir l'âme chevillée au corps. Certains, bon, ils sont arrivés, mais enfin, il y en a beaucoup qui sont partis. Puis, même par exemple... le rôle des femmes dans l'Ouest, c'est effroyable. Ces femmes de colons qui étaient au milieu de nowhere, on peut dire véritablement, à s'occuper de tout, à s'occuper des enfants s'il y en avait, à faire la nourriture et tout avec le peu de choses qu'ils avaient, sans connaître personne. Il n'y avait personne à moins de 50, 100 kilomètres. Ce qui fait qu'à pied, on ne peut pas aller voir ça. Même à cheval, ça prendrait 4 jours. Donc c'est vraiment des choses qui sont extrêmement difficiles.
Est-ce que beaucoup sont repartis ?
Ça, c'est difficile à dire parce que...
Il faut pouvoir repartir.
Oui, c'est ça, il faut pouvoir repartir et puis...
Quand vous arrivez, si vous venez, là dans le film, il y a beaucoup d'immigrés russes et allemands. Ce n'est pas d'ailleurs la réalité totale, c'est-à-dire qu'il y avait aussi beaucoup de migration interne aux États-Unis qui comptait largement autant.
Oui, on montre qu'ils parlent très mal l'anglais d'ailleurs, ce qui est l'objet d'une forme de racisme aussi de la part de l'association des riches propriétaires.
Je pense que là, Cimino essayait vraiment de mettre en parallèle ce qui pouvait se passer dans le sud à ce moment-là et ce qui se passe dans l'ouest. Ce qui n'est pas d'ailleurs inintéressant du tout comme parallèle. Mais vous disiez, est-ce qu'il repartait ? Encore une fois qu'on a tout mis là-dedans, il faut pouvoir repartir.
Il n'y a plus d'argent, et puis aller où ? Revenir vers l'Est pour être ouvrier aussi dans les usines, c'est pas forcément
alors
mieux d'ailleurs.
Est-ce que dans l'histoire du cinéma, Jacques Porte, puisque vous l'avez regardé, on a montré avant Les Raisins de la Colère, qu'on a bien montré l'échec du rêve américain, est-ce qu'on a montré cet Ouest décevant
Ouest... À ma connaissance, non. Non. On a montré la violence de l'Ouest avant Cimino, Peking Pao, tout ça, on a montré la violence de l'Ouest, même de façon moderne, si on veut.
Mais pas l'impunité, quand même. Ce qui est spécifique à Cimino, c'est qu'au fond, il y a un déni de justice, quoi.
Oui, mais enfin...
Alors qu'en général, il y a un happy end dans presque tous les westerns.
Ça dépend, Peking Pao, il n'y a pas d'happy end, véritablement. Ça change quand même beaucoup dans les années 70, déjà. Mais enfin, ça, c'est un problème. Mais je ne crois pas, non, effectivement, même dans les meilleurs films de l'Ouest, disons les meilleurs historiquement, on montre rarement ça.
Je pense que ce n'est pas très cinématographique, de montrer l'amertume, de montrer l'ennui aussi, tout simplement, de montrer ce genre de difficultés.
Des baraques qui sont immondes.
Ce n'est pas forcément très, très spectaculaire.
Non, c'est pas, ça ne se prête pas au film. Ça. Et ce n'est pas héroïque. Il est remarquable que dans les westerns, qui sont les héros, dans le fond, règlement quelques râles, c'est des, des malfrats qui sont engagés par des grands propriétaires, dans le fond, la plupart du temps. Hein.
Alors, il y avait eu tous ces épisodes. On est en 1892, quand cet épisode réel, Johnson County War, la guerre du comté de Johnson dans le Wyoming, se déroule. Et l'année d'après, donc 1893, sort un texte de Turner, un texte célèbre, La théorie de la frontière, qui célèbre cette frontière, qui est le modèle de développement des États-Unis, là où tout le monde, où tous les Américains sont égaux, là où se fait la vraie démocratie. Donc il y a une espèce de déni, enfin, de volonté de
oui, mais enfin, Turner raconte l'histoire de la frontière initiale, si on veut, hein. Oui. Il ne va pas jusqu'à aujourd'hui, il va jusqu'à 1893.
Jusqu'à son temps à lui.
Il raconte comment la frontière s'est formée en partant des colonies de l'Est vers l'Ouest, vers le Mississippi, vers tout ça, en négligeant complètement les Indiens, qui considèrent comme une voie d'extermination, enfin de disparition plus exactement, donc qui ont rendu un peu de service maintenant, mais c'est fini, ils s'en vont, mais, et qui ont permis aussi le développement de certaines formes de démocratie primaire. Mais il ne va pas dans l'ouest des Grandes Plaines, disons.
Mais Turner, de toute façon, il dit fondamentalement deux choses. Il part d'une définition statistique de la frontière, c'est-à-dire un espace vide avec, statistiquement, deux habitants par mile carré. Donc il parle de ça. Et il explique que la présence de ce territoire vide a servi d'appel d'air à l'histoire américaine, que c'est justement pour remplir ces grands espaces que l'Amérique a pu croître, etc., que c'est cette frontière qui a vraiment servi de moteur à l'expansion américaine. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Et la deuxième chose, c'est que le contact avec cette zone de nature sauvage, indomptée, etc., a produit le caractère américain avec le pragmatisme, l'amour de la liberté, voilà, la foi dans l'avenir, l'optimisme et aussi la démocratie. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit tout ça en 93, comme vous le disiez, c'est-à-dire juste au moment où le bureau du recensement annonce qu'il n'y a plus de frontières. C'est-à-dire que c'est à la fois l'annonce d'une glorification d'un monument disparu. Et évidemment, c'est la source d'une angoisse nationale assez forte, parce que si l'identité nationale est fondée sur la frontière, au moment où on comprend ça, à ce moment-là, la frontière disparaît, évidemment, ça pose un problème pour la pérennité du pays.
D'où l'idée d'aller porter de nouvelles frontières ailleurs dans le monde.
Absolument.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas considérer, là, pour conclure, que finalement, cette idéologie de la frontière, quand même, le parti qu'on est à 100% héritier aujourd'hui, c'est le Parti républicain aux États-Unis.
Le parcours intellectuel du Parti républicain est complexe.
Oui, c'est tellement compliqué. Oui,
mais là, en l'occurrence, cette idée, je suis seule avec mon fusil, je défends ma famille.
Le Homestead Act, c'est le Parti républicain. C'est vraiment l'idéal républicain.
Mais l'idéal républicain du grand Parti républicain.
Voilà. C'est-à-dire qu'entre le Homestead Act et justement le film, il y a eu le Gilded Age, hein, l'âge du toc, c'est-à-dire l'industrialisation des États-Unis. La corruption, les scandales, la financiarisation de l'économie, le renoncement à un certain nombre de valeurs américaines et justement aussi des valeurs initiales du Parti républicain.
Et oui, ça c'est certain, c'est le Parti républicain.
Voilà, on va se quitter sur ce Orange Blossom Special, le nom d'un train fameux qui allait vers l'ouest et qui partait de la très belle gare de Saint-Louis qui existe toujours. J'espère que vous l'avez visité. Alors, ce qui nous a rassemblés, c'est la ressortie en version masterisée à voir en salle, à très grand écran, donc du film de Michael Cimino, La Porte du Paradis. Prenez quand même un petit sandwich avant parce que ça dure 3h36. Sur notre site franceculture.com, à la page Tout un monde, vous trouverez la bibliographie de Jacques Porte, notamment Buffalo Bill, cinéma, histoire aux États-Unis. Et puis Figueredo, vous nous promettez Les États-Unis, enquête d'Amérique aux presses universitaires de Paris-Sorbonne pour bientôt. Tout un monde se termine. À la prise de son se trouvait Vincent Ronet, à la traduction Xavier Combes. Réalisation Vanessa Nadjar. Tout un monde chaque mardi avec la collaboration de Claude Armand de Castillo. Vous êtes proposé par Marie-Hélène Fraissé. Il est 16h sur France Culture et un tout petit peu plus.